le pari du livre libre, c'est-à-dire la collection Framabook. Alors, avec nos invités aujourd'hui, donc Magali Garnero, Yann Carvran et Stéphane Croza, on va essayer de vous présenter un petit peu ce pari des livres libres, donc la collection Framabook. Est-ce que donc je crois que je vérifie, ils sont tous là, donc on va commencer peut-être par une présentation personnelle rapide. On va commencer sans doute par Magali Garnero, en une petite phrase Magali.
Alors, libraire sur Paris à livre ouvert, et je suis aussi administratrice à l'April et membre de Framasoft.
Alors, précisez qu'à Livre Ouvert, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Et le site, c'est alivreouvert.fr. Stéphane Croza.
Bonjour, donc Stéphane Croza, je suis membre de Framasoft, je suis prof à l'Université de Technologie de Compiègne, je suis également membre du chaton Picasoft et de l'association Scénarii, un logiciel libre de création documentaire.
Merci Stéphane, on va préciser que Picasoft propose une émission de radio hebdomadaire La Voix est libre, donc du côté de Compiègne, sur Graphite FM, donc 93.9 FM, et sur internet, sur radio.picasoft.net, donc on vous encourage à écouter nos collègues. Et on va finir par Yann Carvran.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis écrivain, je ne fais que ça, et je suis membre de Framasoft maintenant depuis quelques années, où je m'occupe surtout de culture.
D'accord. Alors bah justement, la première question, ça va être pour toi, Yann. Pareil, assez rapidement, quelques mots. C'est quoi Framasoft pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Framasoft?
Alors Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Souvent, on s'arrête là. Mais moi, je rajoute, et j'aime qu'on n'oublie pas, c'est aux enjeux des communs culturels également. Donc l'association a eu un gros coup de projecteur depuis quelques années, puisqu'on avait lancé l'opération dégooglisons Internet suite aux révélations de Snowden, où on proposait des alternatives basées sur des logiciels libres aux principaux services proposés par les GAFAM. Donc qui a entraîné la mise en place de plusieurs dizaines de services en ligne qui sont très utilisés, genre les pads, le partage vidéo, le partage de liens, le partage d'images, etc. pour faire travailler en ligne. Et depuis quelques années, on a lancé une autre feuille de route qui s'appelle Contributopia, où l'idée c'est de passer, de faciliter, d'outiller la société de la contribution.
Écoute, très bien, merci Yann. Pour en savoir plus d'ailleurs par rapport au podcast, au format podcast, vous pouvez réécouter l'émission du 7 avril 2020. Nous avions pris des nouvelles de Framasoft avec Angie Goliot qui travaille à Framasoft. Et un peu plus ancien, nous avions Pierre-Yves Gosset, donc c'était dans l'émission du 4 juin 2019, donc les podcasts sur causecommune.fm et sur april.org. Mais le sujet du jour, c'est donc Framabook. Les Framabooks sont dits des livres libres parce qu'ils sont placés sous une licence qui permet aux personnes qui lisent de disposer des mêmes libertés qu'une personne utilisatrice de logiciels libres. Alors première question, quand et comment est né le projet? C'est-à-dire quand, quelle période et quelle est l'idée initiale? Comment ça, ce projet a germé? Peut-être Yann et ensuite Magali qui je crois a participé un petit peu ou en tout cas a suivi un petit peu le démarrage. Yann.
En fait la collection est partie, on parle de collection, mais moi je préfère parler de maison d'édition, puisque à l'intérieur de Framabook, on a plusieurs collections, puisqu'on peut faire aussi bien du manuel, des essais, du roman et même de la BD. Bon, de la BD noir et blanc uniquement, mais de la BD tout de même. Et c'est à la base, c'est né de l'envie de publier justement du contenu livresque sous format papier. Et donc il y a eu des collaborations qui ont été mises en place avec d'autres éditeurs au début pour pouvoir créer les objets papier, hein, puisque c'est quand même un métier à part entière. Et l'idée c'était d'assister en faisant de la curation de contenu un petit peu. Et petit à petit, je dirais Framabook a pris son indépendance et désormais on fabrique nous-mêmes entre guillemets le papier, c'est-à-dire qu'on fabrique les fichiers qui permettent d'imprimer le papier et on se sert d'un prestataire extérieur pour faire l'impression à la demande, pour pouvoir diffuser les versions papier, en plus des versions électroniques qui sont sur le site.
D'accord, c'était en quelle année le démarrage à peu près?
Alors moi j'étais pas encore, donc je crois que c'est 2006-2007, quelque chose comme ça, vraiment pour les tout débuts.
D'accord.
Magali pourra confirmer.
Alors justement, Magali Garnero, toi qui étais au démarrage, en tout cas tu as vu le démarrage, notamment de ton côté libraire aussi.
Alors au tout début, c'était en 2006, ça a été les premiers Framabook, mais avec un autre éditeur. Et c'est qu'en 2011 qu'on est vraiment devenu éditeur papier, où on a commencé à diffuser des livres qui pouvaient être, d'autre part, téléchargés gratuitement en PDF ou en EPUB.
D'accord. Donc à partir de 2011, donc Framasoft est devenu une maison d'édition de livres libres. Donc on va y revenir un petit peu sur dans les détails. Le premier point, c'est quand j'ai lu l'introduction que j'ai trouvée sur le site, donc donner les mêmes libertés qu'une personne utilisatrice de logiciels libres. Les personnes utilisatrices de logiciels libres se réfèrent à des licences de logiciels libres qui sont bien connues, hein. Et dans le monde, on va dire, du contenu non logiciel, bah, y a d'autres licences, type licence art libre, Creative Commons, avec leurs différentes variantes. Quelles licences libres ont été utilisées, sont choisies, et pour quelles raisons? Parce que j'ai vu que c'est vraiment des licences, notamment, qui ne permettent pas, enfin, qui n'interdisent pas, plutôt, excusez-moi, la réutilisation commerciale, ni même les modifications. Ce sont donc les licences qu'on considère comme les plus libres, permettant de réutiliser, y compris pour des questions commerciales ou même en modifiant les œuvres qui sont produites dans le cadre de Framabook. Donc pourquoi ce choix de licence libre à ce niveau-là? Yann, peut-être?
C'est-à-dire que nous, on différencie vraiment ce qu'on appelle les licences libres et les licences de libre circulation. Donc les licences de libre circulation, c'est en particulier dans les Creative Commons, celles qui incluent le NC, donc non commercial, et non dérivatif, donc pas de modification. Donc ça permet de diffuser largement, mais l'utilisateur ne peut pas vraiment se réapproprier le contenu parce qu'il peut pas en faire ce qu'il veut. Il peut pas réécrire la fin du livre ou d'un roman faire une pièce de théâtre ou le traduire, par exemple. Donc nous, on n'accepte que les travaux qui sont sous licence libre. Donc tu as évoqué la licence art libre. Donc dans les Creative Commons, il y a la CC BY, CC BY SA. Il y a la CC 0, hein, le domaine public volontaire aussi. C'est absolument compatible avec la maison d'édition. Donc parce qu'on veut garantir justement, comme tu le disais, aux utilisateurs les mêmes droits que les utilisateurs de logiciels libres, c'est-à-dire que les gens puissent utiliser le contenu pour en faire ce qu'ils ont envie d'un point de vue culturel. Donc on essaie de fournir également ce qui pourrait être des sources, c'est-à-dire qu'on donne les fichiers LaTeX qui nous permettent de générer en particulier le PDF. Et puis bon, on est certains auteurs, dont moi je donne carrément mes fichiers Markdown, qui sont les fichiers texte les plus simples qui soient, pour que les gens puissent les remanipuler facilement. Je crois que Stéphane fait également la même chose. Donc voilà, il y a quelques auteurs, il y a J également qui fait les BD, qui essaie de mettre à disposition le maximum de sources pour que les gens puissent ensuite créer à partir de la matière culturelle qu'on a proposée.
Oui, c'est-à-dire ce qui est mis à disposition n'est pas simplement le produit fini, que ce soit en format PDF ou EPUB pour des liseuses, mais c'est le format source originale. Donc on va rappeler, bon, LaTeX, c'est un langage et un système de composition de documents. Markdown, c'est un formatage de documents, mais c'est des choses qui sont textuelles et assez simples, enfin assez simples, qu'on peut apprendre et en tout cas qui permettent de modifier. Et je vais préciser que sur les choix des licences libres, rapport aux licences libres diffusion, dans l'émission Libre à vous, on a fait exactement le même choix. Donc on a le même type de licence pour les musiques, donc des licences CC BY, CC BY SA, ou la licence art libre, qui est née en France, je le rappelle, peut-être en 2010 ou en 2011, mais je dis peut-être des bêtises. Stéphane, donc toi Stéphane Croza, tu fais pas partie de Framabook, mais tu es auteur, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu es enseignant-chercheur, donc l'université de technologie de Compiègne, et par ailleurs, bon, tu écris aussi des livres. Ça nous permet d'aborder la politique éditoriale un petit peu de Framabook, donc Yann va la détailler, mais toi en tant qu'auteur qui d'un coup écrit un livre, et évidemment tu nous expliqueras le titre du livre et le sujet, pourquoi avoir choisi la maison d'édition Framabook et pas avoir choisi une maison d'édition autre?
Alors, donc le livre s'appelle Trace et effectivement pourquoi avoir choisi Framabook? Eh bien, alors j'avais déjà évidemment une attirance, on va dire, assez forte pour la culture libre par mon parcours, mais je suivais également l'ensemble des travaux de Framasoft, mais je dirais le premier point, c'est effectivement de maximiser la diffusion, et je pense qu'on retrouvera aussi des choses que l'on connaît dans les logiciels libres, c'est-à-dire que en fait on se rend compte que le fait de le diffuser sous licence libre à travers une maison d'édition, eh bien ça va permettre in fine, au roman de toucher plus de personnes. Donc pour moi, je crois que c'est vraiment le premier élément. Ce que je savais pas à l'époque et ce que j'ai découvert depuis, je sais pas, on pourra l'approfondir un petit peu, mais c'est aussi, du coup, ça ferait un autre argument, c'est que en fait, le droit d'auteur, on peut considérer qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui en termes économiques. C'est-à-dire que de toute façon, il ne permet pas de rémunérer ou permet extrêmement mal de rémunérer les gens qui produisent du contenu. Donc d'une certaine façon, il y a rien à perdre pour ceux qui pensent que l'on pourrait perdre avec une licence libre, et il y a tout à gagner en termes de diffusion.
D'accord, on va parler du modèle économique. Alors, bon, remarquons, on peut en parler tout de suite, on est en mode de discussion. On va quand même finir un petit peu sur la politique éditoriale, parce que toi, tu nous as expliqué pourquoi tu t'es dit finalement tu n'as rien à perdre, tu as quelque part beaucoup de choses à gagner en proposant ton livre aux côtés Framabook. Mais ton livre Trace, c'est pas un livre qui parle de logiciels libres directement, si je me souviens bien, ni de culture libre, c'est un livre d'anticipation, on peut dire, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc à ce moment-là, côté Framabook, donc plutôt Yann et Magali, comment se fait le choix des livres que vous allez choisir d'éditer? C'est-à-dire est-ce que par exemple vous proposez, est-ce que vous avez une catégorie de livres que vous avez envie, une thématique des thématiques? Est-ce que vous proposez par exemple des livres en cherchant des auteurs, ou est-ce que quand les gens vous contactent, ben vous fixez par rapport à une politique éditoriale que vous auriez fixée? Donc est-ce qu'il y a une politique éditoriale vraiment fixée au niveau des Framabook, où finalement beaucoup de choses peuvent être faites?
Le cœur. Le coup de cœur.
Le coup de cœur. Ça, c'est le libraire qui parle, ça.
En fait, la plupart des livres sont... C'est des auteurs qui vont être en contact avec des bénévoles. Donc, c'est vraiment que des bénévoles du côté de Framasoft. Donc, si un bénévole a un coup de cœur pour un livre, il va accompagner l'auteur jusqu'à la publication.
D'accord. Mais Yann, est-ce qu'il y a... Là, c'est le coup de cœur, effectivement. Donc, mais est-ce qu'il y a quand même des limites, ou est-ce que finalement... Bon, tout à l'heure, tu parlais de bande dessinée. Donc, finalement, tout livre peut être édité par un Framabook à partir du moment où, finalement... ça doit correspondre à un coup de cœur par rapport, sans doute, est-ce que vous avez un comité éditorial, je ne sais pas, et ça doit évidemment être sous licence libre.
Oui, oui. Alors, effectivement, c'est important de le dire. Donc, c'est une partie de Framasoft. Il n'y a que des bénévoles. Hein, il n'y a pas de salariés qui s'occupent des éditions Framabook. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre de la part d'un des bénévoles pour le projet qui est proposé, hein, comme le dit Magali, parce que c'est lui qui va faire le travail d'éditeur. Donc il faut avoir le temps et l'énergie de s'investir sur le projet. Après, d'un point de vue très prosaïque, effectivement, alors on a une ligne éditoriale qui est de s'intéresser justement au commun culturel, à la culture libre, de façon générale. Donc c'est très plastique comme définition de l'éditorial, c'est-à-dire qu'on a envie que les gens qui viennent proposer des livres, soit réfléchir sur des problématiques qui gravitent autour des questions des communs culturels et du libre, ou qui ce soit des ouvrages techniques sur des logiciels libres par exemple, si c'est de la fiction, bah, qu'il y ait une réflexion sur la forme ou sur le fond de la part de l'auteur qui concerne quand même le libre. J'en suis aussi un exemple, hein, puisque bah, Framabook est aussi un bon terrain de recrutement pour Framasoft, puisque je suis rentré par Framabook, comme Stéphane. Moi, j'écris des romans policiers qui se passent pendant les croisades, donc ça a l'air extrêmement éloigné. Sauf que j'avais été publié chez un éditeur traditionnel. J'avais deux romans déjà de publiés, et je voulais récupérer les droits de mes romans pour les mettre sous licence libre. Et j'avais envie de le faire avec un éditeur, parce que je pense comme Stéphane que c'est important de travailler avec un éditeur quand on est auteur, on est un petit peu né dans le guidon, on est un petit peu tout seul. Et donc, je cherchais quelqu'un qui puisse m'assister. C'est là où j'ai rencontré donc Framabook. Et ce qui a intéressé Framabook au début, c'est que j'étais un auteur qui venait de l'édition traditionnelle, qui avait envie de passer ces textes sous licence libre pour, comme disait Stéphane, augmenter la diffusion, etc. Et ben maintenant, l'intégralité de mon œuvre romanesque, en tout cas, tout le monde est publié par Framabook, puisque c'est dans la continuité. Et effectivement, a priori, on peut se poser la question de quel est le rapport entre le Moyen-Orient des croisades et le monde du libre. C'est parce qu'il y a vraiment eu une volonté politique de ma part, et d'expliquer aussi pourquoi je fais ce choix, etc., de quitter l'édition traditionnelle pour faire de la culture libre.
D'accord. Je vais juste te poser une question, et après je vais vous poser une question collective, parce que tu as employé plusieurs fois le mot commun culturel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en une petite phrase ou deux, hein, ce qu'est un commun culturel?
Alors une phrase ou deux, t'es un peu dur. C'est-à-dire que voilà, je pars du principe que la culture n'est pas un produit, que la culture c'est quelque chose qui est le résultat d'une interaction au sein de la société, et que ça appartient donc à tout le monde et à personne en particulier, qu'on n'en a qu'un droit d'usage, hein, et que je suis donc pour promouvoir la culture comme quelque chose qui n'appartient à personne, sur lesquels il ne doit pas y avoir des enclosures, et que tout le monde puisse se l'approprier pour ensuite s'en servir pour faire son propre langage. Donc qu'il n'y ait pas de propriété lucrative, qu'il n'y ait qu'une propriété d'usage, pour faire extrêmement rapide et court.
D'accord. Je pense qu'on consacrera un jour une émission complète à cette thématique des communs, parce que c'est quelque chose qui est effectivement pas simple à résumer, même si tu l'as bien fait, mais il y a plein d'implications derrière. Donc ma question collective, parce que on a parlé d'éditeurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle que joue un éditeur entre l'auteur ou l'autrice et la maison d'édition, parce que c'est pas uniquement le fait de recevoir un bouquin et de dire ah c'est bien ou pas. Qu'est-ce qu'apporte la maison d'édition? Donc on va commencer par Magali, parce que ton expérience de libraire, d'avoir un point de vue, et ensuite Stéphane par rapport en tant que lui auteur, et puis Yann après du côté maison d'édition Framabook.
Alors un éditeur, c'est celui qui va choisir les livres. Donc pour le choisir, il en reçoit énormément. Il y a souvent un comité de lecture. Après, on choisit le livre, on rencontre l'auteur, on va retravailler l'œuvre avec, puis on va la mettre en page, on va la rendre accessible, on va la mettre dans différents formats, puis on va contacter un diffuseur, distributeur ou directement des libraires pour pouvoir les mettre en vente. Après, on va gérer les stocks de livres qui ont été imprimés et puis récupérer ce qu'on appelle des retours, c'est les invendus des livres. Et là, j'ai résumé en une phrase.
Super, Magali. Si on peut faire des proches, j'étais très fort pour faire des phrases super longues, la phrase se terminant juste par un point à la fin. Stéphane, toi, dans ton expérience justement avec ton processus éditorial, avec qui as-tu été en contact côté Framabook et comment ça s'est passé?
Mon éditeur, moi, c'était Goofy. Donc je vais y revenir un petit peu. Je me permets juste de revenir sur la question que tu as posée avant, qui est directement en lien dans les critères en fait pour éditer un livre chez Framabook. Il y a le fait de rechercher un éditeur. Ça c'est quelque chose que j'ai aussi vu chemin faisant. C'est qu'en fait il y a pas mal de gens qui ont juste envie quelque part d'avoir un petit peu une caisse de résonance ou d'avoir un livre qui est diffusé. Et ce qu'on m'a dit dès le début, et on va voir que c'est la vraie valeur ajoutée, c'est qu'en fait l'enjeu c'est aussi de rechercher un regard critique, une volonté de voir en fait son travail modifié, amélioré, etc. Donc ça c'est vraiment un point super important. Il y a cette volonté de rentrer dans un processus éditorial et pas juste en quelque sorte de faire valoir son écriture. Donc par rapport à mon expérience, je vous en touche deux mots justement avec Goofy. En fait, ça a commencé hein, quand j'ai pris contact avec Framabook. Donc, faut envoyer un petit projet de une ou deux pages qui décrit un peu l'ouvrage en plus de ce qu'on a écrit. Pour moi, c'était une première version. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, donc j'ai la première chose qui se passe, c'est qu'on reçoit un gros mail de. Alors moi, c'était Christophe Mazouti qui me l'avait envoyé, qui reprend en fait la synthèse de plusieurs lectures. Donc, ça veut dire que j'avais déjà été lu par. Je sais pas exactement par qui, mais par 4-5 personnes, il y avait Yann dans le lot, je crois me souvenir. Ensuite, donc Christophe avait pas mal insisté justement sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait d'accepter la critique des modifications et de rentrer dans un processus éditorial. Et ensuite, je suis rentré dans un cycle infernal ou vertueux avec Goofy. Et c'était des échanges quasiment tous les jours. Hein, tous les 2-3 jours, on s'envoyait des mails. J'ai envoyé des versions, il me renvoyait des propositions de correction, je renvoyais des choses, etc., etc. Donc le travail de l'éditeur, pour moi, là, concrètement, ça a été à peu près 30% d'ajouts. À ce que j'avais envoyé, ça a été des modifications assez importantes au sens où, des personnages qui ont été améliorés, des trames qui ont été un peu mieux ciselées, etc., etc. Et donc, et c'est là-dessus que je conclue. Pour moi, c'est du coup, il y a un vrai boulot d'éditeur. C'est-à-dire qu'à la fin, je pense que ce que j'ai publié est bien mieux que ce que j'ai envoyé au début.
Bah super, je vais laisser Yann finir sur la partie rôle de l'édition, ensuite on fera une pause musicale et après la pause on verra un petit peu sur les aspects économiques. Donc Yann, sur ce rôle d'éditeur, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, juste un détail. C'est les gens ont tendance à prendre Framabook pour l'éditeur du libre, mais on est un éditeur de libre. C'est-à-dire qu'on fait du libre, mais il y a malheureusement il y a presque que nous, mais il y en a d'autres qui le font. Voilà, on n'a pas vocation à publier tout ce qui est sous licence libre. On essaye vraiment d'accompagner, comme le disait Stéphane, et comme ça repose que sur les énergies bénévoles, bah parfois il y en a pas beaucoup, et donc du coup on refuse quand même énormément de projets, parce que comme je disais, il faut qu'il y ait un éditeur qui se propose, même si le livre nous a l'air intéressant. En ce moment on est en train de discuter sur un projet qui nous a été proposé, le projet a l'air intéressant, mais il s'avère que personne parmi les gens disponibles ne se sent les compétences pour l'accompagner suffisamment, donc ça va sûrement se terminer en refus. Ce qu'on a envie d'accompagner et de faire, ce que dans beaucoup de maisons d'édition traditionnelles des éditeurs ne peuvent pas faire, parce qu'ils ont la culture du chiffre, malheureusement, qu'on les oblige, hein, c'est pas par choix. Et donc quand ils ont des dizaines d'auteurs à suivre, ils ont pas le temps de faire le suivi éditorial. Nous, on a le luxe de pouvoir se le permettre, parce qu'on est bénévole finalement au sein d'une structure associative.
D'accord, super. Écoutez, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Une étincelle par l'eau. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune 93.fm, la voix des possibles.
Cause Commune.
N'en aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelle qui t'a déçu. Sans elle, tu seras la plus belle. Moi, je roule sans gêne, j'égrène des graines de mots autour du cou. À mon tour de taille, je tourne la tête à tout ce qui s'en mêle. Belle comme état. Je veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme fredonne jusqu'à l'insomnie. Ils seront tous à mes pieds, la tête tour à tour noyée. Je veux pas qu'on m'enterre sur terre avec mes étoiles, j'espère.
Nous venons d'écouter Une étincelle par l'eau, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc nous allons poursuivre notre discussion sur le pari du livre libre, donc avec la collection Framabook, avec nos invités, donc Stéphane Croza, Magali Garnero, Yann Kervran. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions un petit peu donc du rôle de la maison d'édition et de la personne qui accompagne l'auteur ou l'autrice pour arriver à produire un livre. Et en tout début d'émission, on a évoqué très rapidement la notion de droit d'auteur et autres, mais on va y revenir un petit peu. Parce que j'ai lu donc sur le site, je crois, le pari du livre libre, c'est non seulement réussir à créer une collection de qualité, mais aussi arriver à rendre le modèle économique viable. Bah déjà, donc première question toute simple, c'est quoi le modèle économique de la maison d'édition Framabook ? Donc peut-être que Yann veut commencer.
Alors c'est très simple, pour l'instant on cherche pas à générer de l'argent avec la structure de la maison d'édition, parce qu'on a la chance de faire partie d'une association qui est financée par le don, donc on ne cherche pas la rentabilité sur chacun des titres, ce qui nous permet de passer du temps puisqu'on est, on est des bénévoles, on n'a pas de temps de salarié non plus qui est affecté sur le projet. Et donc l'idée c'était d'arriver à trouver des outils qui soient pratiques, efficaces, pertinents. Le problème, c'est que on a un peu tout testé et ça change absolument régulièrement. Et on aurait aimé, dans l'absolu, pouvoir proposer des sets d'outils qui puissent servir à des petits éditeurs, par exemple, des petits éditeurs indépendants. Mais finalement, on se rend compte que les pipelines de production sont tellement spécifiques selon les individus, les besoins, les auteurs, les autrices, que on a été obligé régulièrement de modifier en fonction des contributeurs, des contributrices, parce qu'il y en a qui sont à l'aise avec l'informatique, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment réussi justement cet aspect-là de l'envie qu'il y avait. Et donc, je pense que finalement, on est en train d'assumer ça et de se dire qu'on est plus une maison d'édition d'expérimentation, de tests, de propositions, et de profiter du statut associatif pour justement expliquer que on a le luxe de pouvoir tester des choses qui peut-être ne fonctionneront pas, mais qui peut-être déboucheront sur des possibilités qui pourront être offertes à d'autres, puisque bien sûr, tout est toujours diffusé de façon transparente et ouverte.
D'accord, donc ça c'est le point de vue, on va dire, de la maison d'édition, du point de vue de l'auteur ou l'autrice. Alors, donc toi Yann, tu es auteur, mais on va commencer par Stéphane. Je crois me souvenir, Stéphane, alors je sais plus quelle expression t'as employée tout à l'heure quand tu parlais des droits d'auteur, je sais plus, mais tu vas la retrouver sans doute. Tu n'avais pas l'air de d'y croire beaucoup, et notamment donc la question sur est-ce que alors d'ailleurs ça va me faire venir une question. Alors, attendez, je prends mes notes parce qu'en préparant l'émission, j'ai reçu des propositions de questions. Il y en a une qui est en lien avec le sujet donc du modèle économique et de la rémunération. Notamment, c'est comment est gérée la question donc des droits d'auteur là dans le terme juridique, et notamment s'il y a plusieurs personnes être intervenues sur le livre mais avec un travail inégal. Donc déjà première question, Stéphane, comment toi tu au niveau de la gestion des droits d'auteur, comment ça se passe? Et question plus générale, s'il y a plusieurs personnes qui interviennent sur un livre, comment se passe la gestion des droits d'auteur? Donc c'est une question qu'on a reçue avant, en préparation de l'émission. Stéphane Croza.
Alors, concernant les droits d'auteur, ouais, ce que j'ai dû te dire tout à l'heure, c'était que ça marchait pas. Hein. Enfin, en gros.
Oui, je crois un truc comme ça. Ouais.
En gros, aujourd'hui, il y a un principe de départ qui est que c'est censé protéger les gens qui créent pour ensuite amener à les rémunérer, mais c'est pas le sujet de cette émission d'approfondir ça, mais en fait on se rend compte que dans à peu près tous les domaines, que ce soit, c'est particulièrement en littérature, mais que ce soit également dans la musique, etc., mais en fait il y a quelques stars qui en vivent, et puis une grande majorité des gens qui ne touchent presque rien. Yann pourra nous redonner ça, ou peut-être Magali plus en détail, mais je crois que les revenus moyens d'un auteur c'est 100 € ou 200 € par an de droits d'auteur. Alors de ce point de vue-là, Framabook ne fait pas mieux du tout. Donc du coup, en fait, le modèle de rémunération, eh bien aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Hein. Il y a aucun auteur chez Framabook qui est en mesure de gagner sa vie avec ça. Mais en revanche, eh bien l'idée, c'est justement d'aller explorer comme le disait Yann, des choses. Parmi ces choses, il pourrait y avoir effectivement le fait de financer en quelque sorte a priori, peut-être d'explorer des crowdfunding. Une autre piste également que l'on a évoquée, pas encore concrétisée, mais que j'aimerais bien à nouveau réactiver pour mon prochain roman, eh bien c'est des idées de coédition avec des maisons d'édition qui ont un peu plus de notoriété, de la présence en librairie, pour essayer de combiner la logique de la diffusion libre, par exemple sur les versions électroniques, et essayer de trouver des modèles un petit peu plus rémunérateurs sur le papier.
Avant de passer la parole à Magali, de me demander son avis sur ce sujet-là, si je me souviens bien, pour avoir quand j'ai préparé l'émission, les contrats de diffusion du Framabook ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire que justement ils laissent la possibilité entière à l'auteur ou l'autrice l'entière maîtrise des modes de diffusion, et donc de choisir de générer différents contrats, enfin de traiter différents contrats avec différentes maisons d'édition. C'est bien ça dont tu parles ?
Exactement, hein. Donc j'aurais pu le préciser avant, mais Framabook reverse donc 15% des revenus des ventes des livres papier aux auteurs, ce qui est plus que les maisons d'édition traditionnelles. On a la possibilité effectivement de mettre en place une logique de dons pour essayer d'avoir des revenus complémentaires. Et puis comme tu l'as dit, on peut, et ça fait partie aussi des objectifs de Framabook, essayer de se faire éditer par ailleurs dans une logique non exclusive.
D'accord. Booknet, c'est quoi ton avis, toi, en tant que à la fois libriste et puis libraire aussi?
Déjà, il faut savoir qu'il n'y a que les livres sous format papier qui sont vendus. Si vous les voulez sous autres formats numériques, PDF ou EPUB, c'est gratuit. Donc déjà, rien que là-dessus, les auteurs ne touchent rien. Donc c'est bien aussi de le signaler parce que notre cible, la plupart des acheteurs de Framabook sont des informaticiens qui lisent plus sous numérique que sous format papier. Après, c'est aussi difficile de vendre des Framabooks parce qu'on ne les trouve pas forcément en librairie. C'est pas pour rien que en 2011, quand l'éditeur Framabook est né, j'ai dit, moi, je les veux en librairie parce que je les achetais en vente libre. Et à l'époque, déjà, les frais de port étaient assez importants. Et donc, je me suis dit, si je les ai en stock, je pourrais inonder toute l'île de France et de permettre aux libraires de ne pas payer de frais de port.
Alors, j'avais une question justement sur comment on accède au Framabook en version numérique, c'est-à-dire PDF, EPUB, donc c'est pour les liseuses. Donc, comme tu l'as dit, c'est sur framabook.org. Je crois qu'on n'a même pas cité le nom du site, excusez-moi. Donc, c'est framabook.org, où vous pouvez trouver les Framabooks, donc sur lesquels il y a la version qui sont disponibles. Alors, je crois me souvenir qu'il y a une page où on peut faire un don, mais je ne suis pas sûr, peut-être, vous me corrigerez. Et donc, sur la version papier, aujourd'hui, principalement, donc c'est vers le via le site dont tu as parlé tout à l'heure, donc enventelibre.org, sur lequel on peut commander des versions papier, et on le trouve dans quelques librairies, dont la tienne à Paris, donc on va rappeler le nom, hein, c'est à livre ouvert, et l'adresse, Magali, c'est 171B boulevard Voltaire, c'est ça?
C'est exactement ça. On peut aussi les commander chez lulu.com, qui en fait est notre imprimeur.
D'accord, donc d'un point de vue technique, tout à l'heure, quand Yann, je crois, parlait de l'impression, alors impression allemande, je crois, si je me souviens bien, avec des prestataires, votre prestataire, donc c'est lulu.com, qui vous permet en fait que quand vous êtes sur Framabook et qu'on a une version papier ou sur en vente libre, en fait c'est impression allemande et c'est Lulu qui, lulu.com, qui imprime le document et l'envoie. C'est bien ça, Yann?
Oui, c'est ça. En fait, sur le site Framabook, vous avez des liens pour télécharger les fichiers de livres électroniques, le fichier PDF, les sources LaTeX dont je parlais tout à l'heure, et un lien vers notre boutique Lulu, où vous pouvez commander la version papier, en sachant qu'après, tout est pris en charge par Lulu pour l'acheminement, la livraison et tout ça. C'est le prestataire extérieur qui s'en occupe. Parce qu'en tant qu'association, on n'avait pas les moyens humains de gérer du stock, de faire de l'impression et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a préféré faire de l'impression à la demande.
Ah, d'accord. J'ai une petite question technique là, vu que tu viens de parler de LaTeX, donc qui est un langage, un système de composition de documents. Donc dans la préparation de l'émission, j'ai reçu une question technique sur les livres multilingues, donc dans plusieurs langues. Est-ce que donc l'écrit Framabook, il y a des personnes qui maîtrisent le LaTeX capables de faire des livres multilingues? Je ne sais pas si l'un de vous est capable de répondre.
Alors moi non, on a des gens qui sont relativement compétents en LaTeX, je pourrais pas répondre comme ça, on n'a jamais été confronté au cas en tout cas. Donc je pourrais pas, voilà, il faudrait que la personne nous envoie un message par le biais de contact.framasoft.org, par le formulaire en disant pour Framabook et on pourra lui répondre parce que là à froid je pourrais pas répondre. Par contre, j'aimerais bien revenir sur la question du droit d'auteur s'il y a le temps.
Alors, en fait, j'allais justement, parce que j'ai vu que de tes dernières publications, donc il y a un billet de blog sur Framablog, donc on mettra les références évidemment sur le site de la radio, causecommune.fm et sur le site de l'april.org, où tu expliques ton choix pour tes dernières publications. Donc justement, sur cette question du droit d'auteur, toi tu as dit tout à l'heure, en fait, alors je sais plus quelle expression pareil tu as employée par rapport à ça, j'aimerais bien connaître ta position, toi, en tant que Yann Carbrand. Et si cette position que tu as expliquée en préparant est la position officielle de Framasoft, enfin ou de Framabook en tout cas.
Oui, alors quand on a parlé d'auteur, j'ai peut-être utilisé le mot imposture, c'est peut-être celui-là.
C'est possible.
Et oui, c'est-à-dire que je, alors ce qui pourrait paraître un petit peu déconcertant vu que je suis écrivain, je suis farouchement contre le droit d'auteur, qui pour moi relève justement d'une imposture intellectuelle, et qui pour moi infuse de façon très sournoise des concepts de capitalistes finalement dans la façon de voir le monde en tant qu'auteur et en le faisant comme une espèce d'horizon indépassable, c'est-à-dire que si je veux pouvoir vivre de mes écrits, il faut que j'ai une vision de capitaliste, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett, hein. Pour lui les écrivains sont les meilleurs capitalistes qui soient. Personnellement, je cite souvent Jean Zay qui dans les années 30 a préconisé de faire une loi qui considère l'écrivain comme un ouvrier, un prolétaire dont le règlement est différé seulement avec des contrats d'édition extrêmement stricts. Donc voilà, moi je suis farouchement contre le droit d'auteur et donc j'ai proposé à ce que mes 4 derniers livres qui sont sortis il y a 15 jours là chez Framabook, bah il y ait pas de contrat d'édition parce que justement comme ce sont des ouvrages sous licence libre, a priori il n'y a pas besoin de contrat d'édition. Je suis pas le premier à le faire, hein. David Revoy l'a fait pour une BD avec Glénat il y a déjà quelques années. Donc il n'y a pas besoin de faire de contrat d'édition pour que Framabook puisse légalement imprimer les ouvrages. Et donc vu qu'il n'y a pas de contrat d'édition, il n'y a pas besoin de me rémunérer sur les ventes que Framabook va faire, puisque moi ça me regarde pas. J'ai mis une œuvre sous licence libre et il se trouve que Framabook, qui m'a aidé à les mettre en forme, les édite aussi. C'est tout. Donc l'idée, c'est justement d'essayer de décorréler le revenu des gens qui essaient de faire du contenu culturel de la vente, selon des principes capitalistes, des supports de cette culture, en fait. Voilà, moi je trouve que ça pose vraiment un problème de vision du monde, et donc j'essaye de proposer de le décorréler. Donc le seul moyen, c'est de supprimer le droit d'auteur. Et donc j'en parlais au début, bah peut-être de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des formes de mécénat. Stéphane en parlait un petit peu tout à l'heure de crowdfunding, d'appel aux dons. Ça marche très 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 mal en littérature, hein, d'expérience, ce que j'ai pu voir. Moi j'ai un appel aux dons ouvert depuis des années. Je dois gagner à peu près 12 euros par mois de dons réguliers, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça marche extrêmement mal parce qu'on n'est pas dans, pour la littérature, dans le cadre d'une culture qui est facilement diffusée sur les médias sociaux, etc. Donc on n'est pas du tout dans l'instantanéité, hein. Lire un bouquin, ça prend du temps d'en faire la critique, d'en parler, etc. Donc on est vraiment sur un temps long qui correspond pas du tout aux habitudes actuelles. Donc c'est très compliqué d'arriver à mettre en place finalement un revenu de ce type-là. Mais je trouve ça intéressant, voilà, de dire... La vente de livres papier ne rapporte rien à l'auteur. On essaie de trouver une autre solution. Et c'est peut-être la société, c'est peut-être pas à Framabook de trouver la solution de comment me rémunérer. C'est peut-être à la société d'y penser.
Stéphane, je vois que tu veux réagir. Vas-y.
Ouais, c'est juste pour rebondir sur effectivement ce que disait Yann, hein, sur la vision capitaliste. C'est-à-dire qu'à un moment, on est quand même dans un truc un peu bizarre, je trouve, à la base dans la culture. C'est-à-dire qu'on fait d'abord ça, je pense pour l'immense majorité, par plaisir et par envie d'être lu, écouté, vu, etc. selon ce que l'on fait. Et en fait, on se retrouve avec un espoir un peu absurde de se dire on fera peut-être partie des 1 pour 1000 ou des 1 pour 10 000 qui arriveront en vivre parce qu'il y aura de la chance, etc. On peut se faire croire du talent, mais peu importe. Et du coup, c'est quand même un contrat un peu absurde, quoi. On part avec juste une envie et puis on arrive avec ce désir de faire partie d'une toute petite élite. Et du coup, effectivement, il y a un truc assez malsain là-dedans. Alors évidemment, moi j'ai un métier, j'ai un salaire par ailleurs, donc c'est assez facile de ne pas trop se préoccuper de ça. Mais comme le dit Yann, il y a vraiment un enjeu à se préoccuper, mais par contre il est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas les réponses.
Et pour finir de répondre à ta question, donc ça c'est ma position personnelle que je pousse quand même un petit peu à Framabook depuis quelques temps, et donc on a convenu de le faire là pour mes bouquins qui viennent de sortir, et on envisage justement de se tourner, on en a parlé en fait à l'AG en début d'année, et on devait en parler lors du Framacan qui malheureusement à cause du Covid a été annulé, mais l'idée ça va être certainement de systématiser ça, de le proposer pour essayer vraiment qu'il y ait cette rupture finalement entre le fait de vendre un objet physique et de le lier à la rémunération du créateur de contenu culturel.
D'accord. Alors, il nous reste même pas 3 minutes. Magali, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce point-là avant peut-être ma dernière question ?
Je ne crois pas, non.
D'accord. Alors je précise que Yann, donc je le dis sur le Framablog, détaille encore plus ce qu'il vient de dire, et notamment il renvoie dans les exemples possibles d'inspiration aux travaux de Bernard Friot et du réseau Salaria. Donc je vous encourage en tout cas à aller lire ce billet de blog, et je pense qu'on consacrera une émission sur ce thème-là qui est effectivement plus large que simplement celui qu'on aborde aujourd'hui. Donc là il va nous rester 2 minutes 30. J'aurais voulu vous demander, est-ce que vous avez des conseils de lecture de Framabook actuel, en dehors évidemment du livre Trace de Stéphane Croza, des 4 livres qui viennent d'être publié par Yann Kita, des textes courts dans l'univers Hexagora, donc et autour, si j'ai bien compris, du monde médiéval, et du fameux évidemment Framabook, guide libre association, coédition April et Framasoft autour des logiciels libres pour le monde associatif. Est-ce que vous avez un ou deux conseils de lecture ou simplement quelque chose à rajouter en 30 secondes chacun?
Allez, je me lance. Du coup, évidemment, si on donne des conseils, ça fera des jaloux. Mais moi, j'aime beaucoup les Grisbouilles et j'ai beaucoup aimé également le premier roman de Pouillot. Donc voilà, deux conseils, mais ça n'exclut pas les autres. Hein, le polar de Fred Urbain, le working heroic fantasy de G, etc.
Ah oui, le polar de Fred Urbain, c'était Vieux Flic, Vieux Voyou, je crois de mémoire le titre, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé. Stéphane, Yann, est-ce que tu as un conseil de lecture ou autre chose à ajouter?
Ah, dans les Framabook, moi j'ai dit lisez Pouillou, comme ça va peut-être le motiver à revenir à l'écriture, parce qu'il s'est arrêté, il avait promis 8 volumes et il s'est arrêté en cours.
Ok, merci. Magali, tu es la dernière.
Alors, moi vous m'avez cité Pouillou, vous m'avez cité Fred Urbain, du coup je voudrais parler de Lily Bourriaud, qui était une jeune autrice, qui avait un livre qui s'appelait Dormir debout, qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est vraiment pas mal. Et puis, les Framabooks, c'est pas que des romans, hein. Il y a aussi des essais. Et dans les derniers essais qu'on voit bien, il y a Liberté numérique, donc c'est pour avoir les bons gestes numériques sur Internet ou sur son ordinateur. Et puis il y a le LibreOffice, qui est quand même une de mes meilleures ventes de Framabooks, qui décortique alors que la partie writer, donc la partie traitement texte, mais qui est vraiment très très bien faite et qui a été traduite par Christophe, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui.
En l'occurrence, donc Christophe Mazuti. Écoutez, merci pour ces conseils de lecture, merci pour votre participation à l'émission du jour, donc Stéphane Croza, Magali Garnero et Yann Carvran, autour donc de Framabook. Alors je rappelle, le site web c'est framabook.org, et puis j'espère qu'on aura l'occasion et le plaisir de se retrouver bientôt dans la vie réelle, entre guillemets, avec évidemment les distances de sécurité. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Bye bye Fred, merci beaucoup.
Merci de ton accueil, au revoir.